Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David de nous rendre la main. On te retrouve tout à l'heure comme d'habitude. Alors c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment d'échange privilégié avec les acteurs du territoire, ceux qui font vivre notre région. Aujourd'hui nous recevons Ludivine Martin, consultante RH et coaching d'orientation scolaire, et Maïlys Fialon, qui est maman de deux jeunes filles que Ludivine a accompagnées. Bonjour toutes deux. Et premièrement, évidemment, bonne année, tous mes vœux.
Bonjour, très bonne année à toi aussi.
Bonne année.
Vous allez bien ?
Ça va.
Très bien, merci.
Alors, on va parler, les gens ne savent pas encore de quoi on va parler, je vais leur dire. On va parler de l'employabilité des jeunes, même si c'est un mot un peu compliqué à dire. Voilà, c'est un enjeu important, qui nous concerne à nous directement en tant que jeunes. Enfin, je parle pour moi, mais je parle pour les autres jeunes, les plus jeunes, et les parents aussi, les inquiétudes que peuvent avoir les jeunes et les parents. On va préciser une première chose au départ, c'est une émission estampillée WIPSI. On a un partenariat avec WIPSI, la maison de l'Europe, et des jeunes. Et vous savez qu'on a des podcasts, on en a parlé, ils sont sur nos réseaux sociaux, il y a les liens. Donc ce sont des podcasts en lien avec les préoccupations qui concernent les jeunes. Voilà. Et donc tous les mois, on aura une émission avec une invitée qui sera envoyée par WIPSI parce qu'il collabore avec eux, qu'il est dans sa sphère de choses qu'ils font. Donc là, aujourd'hui, c'est Ludivine qui collabore d'ailleurs avec WIPSI d'une autre manière, donc on est content de recevoir notre première émission de l'année estampillée WIPSI, bienvenue donc.
Merci.
Alors on va commencer par la tradition un petit peu, on est un petit peu curieux, on aime bien savoir à qui on a affaire, on aime bien connaître la trajectoire des gens et qui font qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à arriver à ce micro aujourd'hui. Je crois que c'est Ludivine qui va se lancer en premier, je sens qu'elle est motivée.
Allez, je me lance.
Allons-y.
Donc pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc dans un premier temps, c'est pour vous parler de l'orientation scolaire, puisque j'en ai fait une corde à mon arc professionnel. Au niveau de mon parcours, ça me semble intéressant de me présenter brièvement quand même. En définitive, jeune, j'ai pas véritablement été très bien orientée au niveau scolaire, donc j'ai butiné dans mon amorce professionnelle. J'ai butiné d'entreprise et de poste en poste jusqu'à trouver véritablement ma voie. Donc j'ai repris les études à l'âge de 28 ans, donc j'ai repris un master RH en alternance. Et puis je suis passée d'entreprise en entreprise dans le bassin de l'emploi, donc ce qui fait que j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine des ressources humaines. Et il y a environ 5 ans, j'ai pris la décision de me lancer à mon compte et d'avancer sur deux thématiques, l'orientation professionnelle et l'accompagnement RH. Donc en fait, aujourd'hui, j'accompagne des structures et entreprises sur la casquette des ressources humaines. Donc typiquement, la Maison de l'Europe qui me fait confiance depuis 2021. Donc je les accompagne sur toute cette casquette-là. Et également, sur le volet orientation professionnelle, je suis consultante en bilan de compétences pour les adultes, mais aujourd'hui en fait je souhaitais faire le point principalement sur l'orientation scolaire des jeunes. Oui. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui.
Très bien, merci, c'est intéressant. Alors on a Maïlys qui est une maman, c'est aussi une profession, moi je crois que à temps plein.
Alors outre être maman, je suis aussi infirmière libérale.
Voilà,
et je suis maman effectivement de deux filles qui sont âgées de 18 et 15 ans. Et au décours de l'entrée au lycée de mon aîné, on a dû faire face à des problèmes d'orientation assez importants, ne sachant pas ce qu'elle voulait faire. Il fallait absolument rapidement se décider. Et connaissant Ludivine de façon personnelle et de son volet effectivement de bilan de compétences, j'ai un petit peu peut-être insisté aussi pour voir si elle pouvait l'aider et faire un bilan d'orientation. Pour l'aider à voir un petit peu sur ses études supérieures et vers quoi elle pourrait s'orienter au niveau de son futur métier.
D'accord. Très bien. Alors, on se pose des questions. Là, on entend souvent que les entreprises sont... elles ne sont pas forcément prêtes à recevoir des jeunes. Les jeunes se sentent un peu perdus. Il y a une équation qui est difficile à résoudre. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous intervenez à ce niveau-là?
Alors, moi, c'est vrai que du coup, j'interviens avec ma double casquette, puisque j'ai toujours un pied à l'étrier dans le milieu de l'entreprise, puisque j'ai certaines entreprises qui missionnent sur du recrutement, sur des thématiques vraiment RH telles qu'on peut les avoir en tête. Et j'ai aussi, en fait, face à moi, des jeunes qui sont en questionnement, qui sont véritablement perdus avec les codes de l'entreprise. Donc l'idée, effectivement, c'est d'apporter ce soutien. La demande aujourd'hui principale, c'est véritablement d'éclaircir cette orientation professionnelle, puisqu'effectivement, aujourd'hui, ils ont énormément d'accès, de documents, de supports.
Trop.
Trop. Et donc, le fait d'avoir un professionnel à leur côté pour les accompagner, véritablement, je pense que c'est un levier puissance 12. Surtout que dans mon quotidien, travaillant aussi avec la Maison de l'Europe des Landes, j'ai un contact régulier aussi avec des jeunes. Je les accompagne sur le volet RH, donc j'ai aussi cette vision de les accompagner dans la prise de poste. Mais aussi, voilà, je touche du doigt leurs attentes. Donc c'est vrai que dans l'accompagnement, ça me semble pertinent.
Bien sûr. Alors, dans votre travail avec l'association WIPSI, vous apprenez aux jeunes les codes de l'entreprise. Voilà, alors les codes de l'entreprise, il y en a certains, c'est comme la ponctualité, etc.
Tout
on a discuté
fait.
Un petit peu hors antenne. On entend par-ci par-là des gens qui parlent, qui mettent un petit peu en opposition deux générations, l'ancienne, dont je fais partie, et la nouvelle. Et donc, en fait, les codes de comportement sont plus du tout les mêmes. On est en 2026. Les entreprises doivent s'adapter. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, oui et non sur ce qui a été annoncé, puisqu'en définitive, les jeunes, dans les accompagnements que je réalise, je note deux tangentes, en fait. Je vais avoir des jeunes qui vont être attentifs sur un management très directif, où en fait, ils vont avoir besoin de que ce soit très cadré. Et à côté de ça, j'ai d'autres jeunes qui font pourtant partie de la même génération, qui vont avoir besoin de beaucoup plus de latitude, de moins de contraintes au niveau de l'emploi du temps. Ça peut être des passionnés qui, au final, ne vont pas faire du 9h-17h parce que vous allez les enfermer dans des cases, qui vont plutôt fonctionner en fonction de... on va dire de... Alors, c'est pas l'énergie, mais de comment les choses vont leur venir. Donc, pour eux, c'est vrai que si on met un cadre trop ferme, en définitive, ça coupe leur créativité, ça coupe leur motivation et on les perd, en tout cas, dans leur sens. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les jeunes, aujourd'hui, vont se lever le matin non pas pour les mêmes choses que les anciennes générations. Les anciennes générations vont principalement se tourner sur la sécurité, la stabilité, une certaine régularité dans leur prise de poste. Les jeunes générations, eux, vont plutôt se lever le matin pour faire du sens, pour surtout s'épanouir, pour se faire plaisir. La notion de plaisir est très importante. Et le plaisir peut être effectivement de plusieurs dimensions chez les jeunes. Ça va être tout simplement de passer du bon temps avec ses collègues. Ça va être de faire des missions qui leur parlent, mais ça peut être de pouvoir en fait jongler avec leur vie personnelle beaucoup plus que les anciennes générations. Et n'oublions pas aussi que cette génération de jeunes, ce sont des jeunes qui ont vu leurs parents pendant la période Covid, en télétravail.
Voilà.
Ça n'a pas forcément été une période très glorieuse pour les parents, donc je pense que ça n'a pas forcément motivé les jeunes à rester enfermés derrière des outils numériques.
C'est vrai que comme dans les trois quarts des émissions que je fais encore en 2026, on parle toujours du Covid parce qu'il y a eu, il y a eu un avant et un après dans la société, donc au niveau de l'emploi et de l'esprit des jeunes, ceux qui ont connu en tant que parents cette période-là avec des... l'éducation nationale qui n'était pas prête à prendre en charge cette communication numérique, les outils n'étaient pas RGPD, ils n'étaient pas fonctionnels comme il aurait fallu, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu des parents perdus et des élèves aussi. On parlait tout à l'heure en antenne de le sport et santé mentale qui est un des sujets des podcasts de WIPSI, mais voilà, il y a beaucoup de jeunes qui en ont souffert de ça en fait, de ce manque peut-être de cadre ou de référence et de cette d'incertitude. Les angoisses des adultes sont passées un petit peu sur les épaules des plus jeunes, je crois, maintenant.
Oui, oui, tout à fait. Et puis après, c'est cette cassure sur la sociabilité. N'oublions pas que certains jeunes, à l'âge de 14, 15, 16, 17, se sont retrouvés enfermés entre quatre murs. Oui. Si on se reprojette nous-mêmes au même âge, oui. Bon, vous doutez bien que c'était ça nous normal. Aurait plus que largement impacté psychologiquement.
Et oui, oui.
Donc, donc voilà, donc ça ne peut que laisser des séquelles sur ces jeunes.
D'autant plus que ça, alors tout ça doit favoriser aussi effectivement. Il y a un petit peu un combat, j'ai l'impression, avec des entreprises pour le retour sur le lieu de travail, parce que beaucoup de gens ont conditionné même leur embauche à un certain taux de télétravail, hein, et il y a aussi cet aspect-là, je pense, dans le travail des jeunes. Ils ont décidé que voilà, ils préféraient télétravailler X jours par semaine, c'est mieux pour eux.
Alors,
ceux qui peuvent.
Alors le flexi-travail, on va dire, enfin en tout cas ce côté flex effectivement émerge un petit peu plus sur cette génération, mais pour moi, c'est pas forcément ce qui remonte en priorité quand j'accompagne les jeunes.
D'accord.
Par contre, effectivement, sur le côté recrutement, sur la casquette vraiment RH pure et plus la casquette coach en orientation scolaire, effectivement, c'est des choses qui remontent, mais plus sur une génération, on va dire, de trentenaires. On est plutôt sur cette tranche-là. Les jeunes aujourd'hui, ils sont pas forcément encore trop dans cette approche du télétravail, mais plus sur une dimension horaire, flexibilité au niveau de l'emploi du temps.
Bon, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui intègrent une flexibilité dans
l'emploi
du temps. On pointe, du moment qu'on fait ses heures dans la semaine ou dans la journée, peu importe. Voilà, du moment que la productivité suit derrière, c'est
tout
vrai.
Tout à fait. Mais des fois, ça peut être handicapant parce que vous avez des équipes managériales qui elles, ont besoin d'une certaine organisation.
Bien sûr.
Et le fait de rentrer-sortir quand vous êtes sur une prise de poste, comme certains jeunes, c'est pas forcément la facilité pour le management et pour la prise du poste.
Oui, tout à fait. On va se tourner un peu vers Maïlys parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut nous faire un petit témoignage de ce qu'elle a vécu. Déjà, en préambule, première question, qu'est-ce qui s'est passé tout à coup pour que vous ayez ressenti le besoin de faire appel à une personne pour vous aider dans ces démarches-là? Est-ce que ça vient de vos deux filles ou est-ce que ça vient de vous? Elles étaient désemparées, vous étiez dit on va trouver une solution. Comment ça s'est passé un petit peu cette histoire?
Alors, c'est surtout avec ma fille aînée que ça a débuté. Donc, c'est une élève qui est quand même assez aisée dans ses études. Et arrivée en seconde, elle s'est complètement perdue.
Oui.
Perdue dans son grand lycée, mais perdue aussi, surtout, dans son avenir. Où l'échéance de Parcoursup arrivant très très vite, la première où il fallait choisir toutes ses spécialités, on a vu une enfant qui a totalement changé et qui était vraiment perdue. Connaissant de façon personnelle Ludivine et son entreprise, nous l'avons sollicité pour faire un bilan d'orientation. Alors, à la base, ça ne venait pas de notre fille. D'abord, on a pris relation avec Ludivine, qui a accepté d'accompagner Lali et de l'aider dans cette démarche.
D'accord.
Voilà, et elles se sont rencontrées à trois reprises. Et dès le premier rendez-vous, ça a été quelque chose de révélateur. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, Ludivine, tu me couperas si je me trompe, mais sur le premier rendez-vous, c'est essentiellement, en fait, des tests de personnalité. Alors, nous, en tant que parents, effectivement, on a retrouvé ce qu'on imaginait dans notre enfant, mais elle, ça lui a révélé des choses qui ont permis de débloquer des curseurs.
Oui.
Pour gérer son orientation après.
Ouais, ça peut ressembler un petit peu au parcours qu'on suit un petit peu quand on va chez France Travail, qu'on cherche du travail en fin de compte. Il y a certaines périodes de la vie où on se retrouve à faire ce genre de choses et on apprend sur soi jusqu'à très tard en fait. Donc alors quand on est jeune à plus forte raison évidemment. Et alors quel âge ont vos filles maintenant? Parce que qu'est-ce qu'elles ont fait suite à tout ça? Voilà, leur trajectoire à elles, parlons-en. Maintenant.
Alors, mon aînée a 18 ans.
Oui.
Elle vient de passer son bac. Elle est partie faire ses études supérieures. Elle est en école d'éducateur spécialisé. Et c'est exactement ce vers quoi tendait son bilan d'orientation. Et ma seconde est actuellement en seconde au lycée.
Oui.
Et par contre, nous avons fait le bilan d'orientation un petit peu plus en amont que pour notre aînée.
D'accord.
On l'a fait en troisième parce que on trouvait que déjà. En rentrant en seconde, de lui enlever cette charge mentale de savoir en première ce qu'il allait falloir faire, allait pouvoir l'aider.
Oui, c'est vrai, parce que l'année de seconde est, entre guillemets, en théorie, normalement un peu plus cool. C'est pas une année avec grosse échéance, voilà. Mais c'est vrai, par contre, en troisième, il peut y avoir des orientations, des prépas métiers, suivant les profils des enfants. Voilà, donc on n'est pas toujours sélectionné que par l'échec, hein, mais aussi par le goût, hein, faut quand même le rappeler. Voilà, alors c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu en tête, mais c'est que... Il y a aussi un petit trou dans la raquette, hein. L'éducation nationale ne remplit pas tous ces trous-là, hein. Donc cette aide-là, elle n'est pas forcément toujours disponible avec une bonne qualité, donc voilà, parce qu'il faut dire que la charge est lourde aussi. Je ne sais pas combien il y a d'élèves chaque année dans le système, dans la machine, et le but, c'est pas qu'ils en sortent tous broyés. Voilà. Donc alors, et vous, alors Ludivine, alors je rappelle Dumartin, parce que j'ai écorché votre nom, je suis désolé. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi le profil d'enfants et d'élèves et d'âge en fait?
Alors au niveau de l'accompagnement, il n'y a pas véritablement de profil. Alors en termes d'âge, effectivement, comme l'a dit Maïlys, on peut démarrer l'accompagnement à partir de la troisième. Alors ça peut être un step, la troisième. Mmh. Ça peut être seconde, première. Effectivement, en général, la population des jeunes que j'accompagne est plus dans cette tranche-là. Mmh. Mais en fait, je peux accompagner des jeunes jusqu'à 25 ans sans problématique avec cet accompagnement. Mmh. Au niveau de la méthode, je pense que ce qui fait aussi que ça fonctionne très bien avec les jeunes... c'est qu'en fait, au niveau de mon approche, je suis éloignée de tout ce qui va être purement scolaire, purement institutionnel.
Oui, c'est extérieur. Hein.
Voilà, donc en fait, au niveau de mon approche, je suis vraiment plus proche de la ludopédagogie, facilitée au travers de cartes. En fait, des fois, sans s'en rendre compte, au travers d'une discussion, d'un questionnement, en fait, on avance sur un test de personnalité pour rebondir sur ce que tu as dit. Parce qu'effectivement, je leur fais faire des tests classiques, mais après, j'ai des outils extrêmement adapté aux jeunes, qui fait que, ben, sans s'en rendre compte, on bosse sur leur orientation. Mmh. Souvent, donc, moi, les séances durent 2 heures. Souvent, on me dit, mais déjà 2 heures, mais t'as terminé, mais c'est passé trop vite.
Oui.
Voilà, parce que ben, j'alterne avec... avec des outils qui leur parlent, sans que véritablement ils aient l'impression de travailler. Et même en dehors des séances, du coup, je les challenge, parce que voilà, effectivement, Maëlys est venue de son propre chef. Par contre, ce qu'il est primordial dans l'accompagnement, c'est que le jeune soit moteur. Moi, je n'avance pas dans l'accompagnement si le jeune n'est pas OK. Parce que derrière, c'est son avenir. Il faut qu'il ait l'envie, il faut qu'il ait la motivation d'avancer dans la démarche. S'il n'est pas dedans, ça ne marchera pas. En tout cas, moi, je préfère me dessaisir de l'accompagnement parce que le jeune ne sera pas motivé et à fond dans la démarche. Donc, ça ne sert à rien d'investir là-dedans tant que le jeune n'est pas moteur.
Moi, j'avais une question que j'ai posée un petit peu hors antenne, discuter avec Ludivine sur des a priori qu'on peut avoir. C'est vrai que moi, je me posais la question si, comme je disais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ne l'est plus, je ne sais pas si elle a été un jour. En tout cas, on sait que par rapport aux anciennes générations, c'est fini, je démarre un boulot à 18 ans et je le fais jusqu'à que mort s'en suive. Ça n'existe plus, ce trajectoire, plus tellement.
Non, non, effectivement. Et puis moi, c'est vrai que c'est ce que j'explique aux jeunes quand on démarre l'accompagnement, c'est que là, on va définir une orientation... immédiate, on va dire, mais le marché du travail évolue en très très rapidement, ne serait-ce que si on parle par exemple des métiers de la comptabilité. Il y a 10 ans en arrière, je vous aurais dit qu'on allait passer à la facture X et que le métier de comptable allait disparaître. Vous m'auriez pris pour une folle. Donc voilà, c'est vrai que là aujourd'hui on a notamment l'émergence de l'intelligence artificielle qui fait que certains métiers que j'ai recruté comme prometteur, je dirais, il y a 6, 7, 8 ans en arrière, comme graphiste, par exemple, où là, aujourd'hui, le graphiste, tout est fait avec l'IA.
Oui.
Donc, en définitive, moi, ce que j'explique aux jeunes, c'est qu'effectivement, là, on va avancer sur une orientation immédiate et que, en tout cas, je lui donne les clés pour qu'il comprenne surtout comment il fonctionne, quelle est sa personnalité, quels sont les axes sur lesquels il sera le plus à l'aise, pour que, à la suite de son accompagnement, il puisse tout simplement être en mesure, si à un moment donné, il y a, on va dire, une évolution du marché du travail, de pouvoir être en capacité de se réorienter. Parce que, voilà, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai repris mes études à 28 ans. La formation, c'est tous les jours, c'est le lot du quotidien. Donc voilà.
C'est vrai qu'il faut être conscient de ça. Il faut qu'ils sachent qu'effectivement, ils auront probablement, très probablement, un jour à changer de métier pour X raisons. Le métier où ils perdront leur emploi, où eux n'auront plus envie de le faire, où ils bougeront géographiquement.
Mais en définitive, je ne pense pas qu'ils le vivront comme nous, on peut le vivre. C'est-à-dire que nous, nous et les générations un petit peu plus anciennes vivent le changement comme une fatalité, une difficulté et quelque chose de vraiment délicat à mettre en place. Les jeunes sont quand même un petit peu plus agiles. Ils sont habitués aussi à switcher assez rapidement avec les outils qu'ils utilisent tous les jours, qui sont le téléphone portable, tout ce qui va être tablette. En soi, je ne pense pas que ce soit une problématique pour eux.
Oui, c'est vrai que les adultes, les parents ont toujours tendance à s'inquiéter pour les petits, mais on se rend compte qu'en fait, ils sont souvent beaucoup plus souples que nous. Physiquement et intellectuellement, on ne boxe pas la même catégorie.
Ils ont déjà cette conscience, de toute façon, que ce ne sera certainement pas le métier d'une vie.
Oui, voilà, ça, ils l'entendent en tout cas. Je sais que nous, à une époque, on disait fais tel métier, tu seras à l'abri, tu seras en sécurité. Maintenant, ce n'est plus une chose qu'ils entendent du tout. Maintenant, les jeunes, ils savent qu'ils seront appelés à faire probablement d'autres choses.
Et puis, ils ne veulent plus. Veulent plus ça. Et puis aussi, ce qui émerge pas mal avec l'émergence de l'ubérisation du marché du travail, c'est que les jeunes aussi, un petit peu à l'image de ce que je propose moi au niveau de mon activité professionnelle, c'est-à-dire que ils aiment bien butiner entre plusieurs activités. Typiquement, à l'image moi de mon activité, le matin, je vais faire du conseil RH, l'après-midi, je vais faire du coaching d'orientation scolaire. Je pense qu'ils sont stimulés aussi par ce challenge, cette nouveauté et cette remise en question quotidienne.
Oui, c'est vrai qu'en général, on caricature un petit peu en parlant des réseaux sociaux, mais qu'ils ont une habitude de rapidité, d'instantanéité de certaines choses. Donc forcément, la lassitude arrive plus rapidement que les anciennes générations, les nouvelles générations, que les anciennes générations, c'est sûr. Alors moi, j'ai une petite question. Et quid de l'apprentissage, cette filière-là, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, l'apprentissage...
Oui, on peut voir ça comme un premier pied dans l'entreprise.
Tout à fait, vaste sujet. Donc il est vrai que je parle avec ma double casquette puisqu'en fait j'accompagne des structures sur le volet recrutement. J'avais de nombreuses structures, notamment trois qui me sollicitaient sur du recrutement d'apprentis chaque année. Cette année, très clairement, avec l'évolution de la prise en charge, très clairement j'ai eu zéro recrutement.
Et voilà,
Donc il va y avoir un vrai sujet pour la jeunesse quelques années à venir, parce que si les apprentis ne peuvent plus trouver de stage, c'est un vrai, d'employeur, ça va être une vraie problématique à mon sens.
C'est sûr. Parce que c'est vrai que j'ai entendu ça, j'ai même reçu des mails, nous à la radio, on peut recevoir des fois des sollicitations, ils ne trouvent plus de stage. Alors c'est paradoxal quelque part, parce qu'il y a quand même quelques années, rappelez-vous, tout à coup, on a découvert, il faut y aller à fond sur l'apprentissage. Moi, je connais des proches, de très très proches, qui en sont très contents. Parce que voilà,
L'apprentissage, c'est un outil et c'est un vecteur extraordinaire. C'est vrai que moi, souvent, je pousse mes jeunes que j'accompagne à avoir une activité pro. Alors, si ce n'est pas par le biais de l'apprentissage, c'est tout simplement par une activité personnelle engagée, investie dans une asso. En tout cas, très clairement, demain, moi, quand j'ai deux CV face à moi, je vais privilégier le jeune ou le candidat qui aura une expérience à côté, qui aura une expérience, bien entendu, en lien. Si par exemple, vous voulez partir sur du social, les métiers du social, allez faire des maraudes. Ça ne fera que développer votre CV, votre crédibilité et surtout faire la différence face à d'autres CV.
Oui, ça c'est vrai que c'est important. D'ailleurs, ça c'est une question qu'on peut se poser des fois là, quand on est en recherche d'emploi, où c'est à CV égal, qu'est-ce qui fait la différence? C'est les soft skills qui vont faire la différence par rapport.
Alors les soft skills, c'est un gros mot là en RH on utilise beaucoup.
Vous allez le traduire en français.
En fait, les soft skills, ce sont les compétences douces. En fait, si vous voulez, on part toujours du principe que il faut avoir un diplôme pour trouver un métier. Sauf que nous, en tant que RH, qu'est-ce qu'on recherche. Souvent, vous êtes là au moment du recrutement, votre diplôme, vous l'avez. Donc nous, on n'est pas là pour vous sonder sur la partie technique. On est là véritablement pour identifier quelles sont vos compétences. Donc les compétences soft skills, ça va être typiquement l'adaptabilité, la flexibilité, ça va être la communication, la typologie de communication dans laquelle vous êtes à l'aise. Puisqu'en fait, c'est ça qui va faire que vous allez matcher. Et en fonction de ce qu'on va cerner, et identifier, c'est surtout sur ça qu'on va miser pour potentiellement développer votre potentiel au sein de l'entreprise et développer vos talents. Parce que la technique, passer son permis de conduire, je passe mon permis de conduire, je passe un CACES, c'est Ça, c'est accessible, c'est, on va dire, ça se fait. Par contre, le fait d'avoir une bonne capacité de communication orale, verbale, écrite...
Une langue en plus. C'est important, ça, les langues.
Ben, ça, en fait... Bon, la langue, encore, ça s'apprend. Mais une aisance en communication, typiquement, si vous n'êtes pas à l'aise... Alors oui, il existe des formations, prise de parole en public ou quoi, mais en fait, si c'est pas inné... Ça sera compliqué.
Il faut venir à la radio, il faut venir à Souvenir FM pour faire un petit stage, se confronter à l'expression à l'antenne. C'est bien le public, on ne le voit pas. Bon, c'est déjà un stress en moins peut-être.
Moi, pour rebondir justement sur le bilan d'orientation pour lequel Ludivine a accompagné ma fille aînée, qui devait partir effectivement sur des métiers du social, elle lui a typiquement dit, écoute Lali, si tu veux pouvoir valoriser ton Parcoursup, il va falloir que tu fasses des choses à côté. Elle s'est investie auprès des Restos du Cœur, elle s'est investie dans le tutorat en accompagnant des élèves. Et effectivement, cette idée-là a été importante puisqu'elle a été recrutée dans toutes les écoles auxquelles elle a postulé. Donc, effectivement, c'est quelque chose, ces soft skills sont importantes.
Oui, c'est vrai, quand on s'est retrouvé dans la position de recruteur, ça m'est déjà arrivé. Des fois, on ne recrute pas forcément les gens pour ce qu'ils savent faire, mais pour la sensation qu'on a, de l'envie qu'ils ont de faire et d'apprendre et de découvrir de nouvelles compétences. Parce qu'on sait bien que tout le monde n'arrive pas en collant exactement dans le moule qu'on voudrait qu'il lui donne. Mais si on a le sentiment que la personne est capable de s'adapter à ce moule-là, on se dit, bingo.
Tout à fait.
Voilà, donc il faut être souple sur les genoux, comme diraient les entraîneurs de rugby. Alors, on va demander un petit peu à Ludivine, comment ça se passe. Alors, c'est quoi le parcours du combattant? Non, je plaisante. Quand quelqu'un vient vous voir, des parents, des jeunes, suivant leur profil, comment ça se passe en fait?
Comment ça se déroule ce coaching? Ok. Oui. Donc en définitive, on fait, dans tous les cas, moi je fais un entretien qui est totalement gratuit. Donc un premier échange où je les reçois dans mon bureau à Pontonx, pendant quasiment une heure, en fait, on échange entre le jeune, les parents, leurs inquiétudes. Je cerne aussi et j'identifie les motivations du jeune. À la suite de ça, donc, bien entendu, je transmets toute la documentation aux parents et aux jeunes. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, l'idée, c'est vraiment que le jeune soit acteur dans la démarche. Donc, il faut que la démarche émane du jeune. Une fois qu'on a le go, moi, je commence déjà à leur communiquer du travail à réaliser pour la première séance parce que le travail aura déjà commencé dès le go. Dans l'idéal, on organise 3 rendez-vous de 2 heures espacés à peu près de 2 semaines. C'est dans l'idéal. Après, je ne m'interdis pas de rajouter des séances en fonction. Dans tous les cas, ça fonctionne sur un forfait d'accompagnement. Et ensuite, au niveau de l'accompagnement, la première partie, en fait, on va être principalement sur la découverte, son parcours de vie jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, donc, l'analyse de sa personnalité, la suite des rendez-vous, donc, en fonction, parce qu'on est vraiment sur un accompagnement personnalisé. Moi, je tiens vraiment à mettre l'humain au cœur de l'accompagnement. Donc souvent, j'ai 2 jeunes qui se connaissent et qui me disent « Mais attends, t'as vu ça avec Pierre et pourquoi tu le vois pas avec moi ?» Parce qu'en fait, chacun est différent et que mon accompagnement, c'est pas quelque chose de purement défini et figé et qui fait que je déroule mon accompagnement, c'est pas ça. Et ensuite, bien entendu, on fait le lien avec la découverte des métiers. Donc là, je leur mets à disposition une plateforme, je leur mets à disposition des outils numériques, bien entendu des outils qui leur parlent. Sur la finalité de l'accompagnement, je leur remets ce qu'on appelle une carte mentale, c'est-à-dire que au lieu de leur faire de grandes rédactions, ils ont un document qui leur parle, un document qu'on façonne ensemble. Et surtout sur la fin de l'accompagnement, moi ce qui me semble primordial, c'est que sur les dernières 20 minutes d'accompagnement qu'on a ensemble, je demande aux parents de revenir et que le gamin ou le jeune, en tout cas l'ado, présente son projet à ses parents. Ça permet vraiment d'ancrer le projet, ça lui permet de s'affirmer et de confirmer que c'est mon projet. Voyez, j'en suis fière et j'avance dans ce projet.
Bien sûr, d'autant plus que des fois de formuler les choses, même quand on est apprenant, de les dire, de les redire, de les présenter, de les déposer, tout à coup ça leur donne ça avait une petite couche de vernis par-dessus, ça les consolide un petit peu. Et alors du coup vous avez 2 filles qui sont sur des bons rails. Alors, Maïdis.
Tout à fait. L'aînée, ça y est, ça roule complètement. La seconde, encore un petit peu en recherche, mais ça a bien bien avancé et j'en remercie Ludivine parce que effectivement ça nous a permis de lever beaucoup de leviers notamment sur Parcoursup, sur des recherches de savoir quelle filière s'orienter, etc. Mmh. Et sans ça, je pense qu'on aurait été beaucoup plus en difficulté.
Et oui, bien sûr. Oui, voilà, voilà. Et puis aussi, c'est l'occasion de rappeler aux jeunes qui nous écoutent hein, qu'effectivement, utiliser une partie de son temps libre ou des congés, etc., à faire des choses utiles pour les autres, c'est bien. Parce qu'ici, on reçoit beaucoup d'associations. Voilà, elles ont besoin de bras et de cœur hein, pour tourner. C'est important. C'est ce qui fait vivre le territoire aussi, hein, qui fait battre le cœur du territoire. C'est les associations, en grande partie. Voilà. Et donc, et puis, du coup, voilà, c'est pas perdu parce que, quand un recruteur ou quelqu'un qui recrute pour un emploi ou pour une formation va dire, ben oui, cette personne-là, elle a déjà passé du temps, de son temps à faire telle ou telle chose, ben, c'est le petit plus qui va peut-être faire la différence.
C'est ça. Et après, l'associatif, c'est pas uniquement aider les autres. Dans l'associatif, vous avez aussi des services techniques, des supports techniques, typiquement la radio.
Oui, par exemple.
Voilà.
au hasard.
Voilà.
C'est vrai.
Donc, en fait, il ne faut pas s'imaginer que du bénévolat, c'est forcément aider les autres.
Ah oui, c'est pas forcément faire la soupe populaire. Non.
Voilà, d'accord.
Oui,
non. On est d'accord. Mais je pense que c'est important de le préciser parce que c'est vrai que je pense que c'est l'idée qu'on a un petit peu en tête quand on pense à bénévolat.
Oui, il y a certains jeunes qui font du bénévolat, par exemple, dans des festivals de musique, ce qui peut permettre de converger des passions, des goûts qu'ils ont musicaux avec cet aspect-là. Et d'ailleurs, c'est toujours sympa, un festival de musique vu de l'autre côté aussi, du côté pas du public, parce que du coup, on a des fois contact avec les techniciens, les artistes et tout, et c'est sympa. Moi, j'engage tous les jeunes qui n'ont pas fait à tenter leur chance, c'est vraiment très sympa.
Ça peut révéler des appétences vers quelque chose que le jeune n'aurait pas imaginé.
Oui, tout à fait. Eh bien, mesdames, merci beaucoup d'être venues. Voilà, donc j'espère que des gens nous auront entendus et qu'ils vont se dire, allez, on va bouger, on va faire quelque chose. L'avenir n'est pas que gris, il faut juste bouger et on va continuer à avancer. Voilà, merci beaucoup, mesdames, d'être venues.
Ben merci.
Merci,
au revoir.